VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec, Eric Manilakiza en votre compagnie. Bienvenue à cette édition du vendredi 16 octobre 2015. Au sommaire ce soir, Morgane.
Des dizaines de morts au Nigeria dans une série d'attentats suicides attribués au groupe islamiste Boko Haram.
Le président guinéen sortant Alpha Condé s'achemine vers une réélection au premier tour, mais l'opposition promet de contester les résultats par tous les moyens.
Au Burkina Faso, plusieurs personnes inculpées dans l'affaire du putsch manqué du 17 septembre et de l'assassinat du président Sankara.
Et des Palestiniens ont mis le feu au tombeau de Joseph, vénéré par les Juifs en Cisjordanie occupée. Plusieurs Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
En Guinée, le président sortant Alpha Condé s'acheminait ce vendredi vers une réélection au premier tour de la présidentielle, déjà récusée par l'opposition qui crie à la fraude et prévoit de la contester par tous les moyens autorisés, y compris les manifestations. Inquiète du risque de violence post-électorale, le fréquente en Guinée, la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme exhortent les candidats à régler leurs litiges devant les tribunaux et non dans la rue.
Premier point de presse à Ouagadougou sur l'affaire Thomas Sankara et celle du putsch manqué. Le colonel Sita Sangaré, directeur de la justice militaire en charge de l'instruction de ces deux dossiers, annonçait des inculpations dont le général Gilbert Diendéré, poursuivi pour 11 chefs d'accusation, dont celui de crime contre l'humanité. Il risque la peine de mort. Par ailleurs, la justice militaire n'exclut pas de lancer des poursuites contre l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, dans l'affaire de l'assassinat de l'ex-président Thomas Sankara, auquel il a succédé en 1987 à l'issue d'un putsch. Les précisions de Zoumana Wonogo.
Ce premier point de presse du nouveau directeur de la justice militaire a épousé les formes habituelles des conférences de presse. Une longue déclaration liminaire, puis la séance des questions-réponses. À ce jeu, le colonel Sita Sangaré, qui sait très bien marcher sur des œufs, a finalement lâché quelques bribes d'informations capitales sur les deux dossiers en sa charge, à savoir l'affaire Thomas Sankara et le putsch manqué. Ainsi, sur le dossier Thomas Sankara, 8 personnes ont été inculpées. Et comme tous les regards sont tournés vers Blaise Compaoré dans ce dossier Thomas Sankara, le directeur de la justice militaire a précisé que pour le moment, l'ancien président du Faso n'est pas poursuivi. Concernant les putsch manqués, il y a 23 inculpations. Là, il a lâché des noms, comme ceux du général Djibril Bassolé, des hommes politiques de l'ancienne majorité, Léonce Kone et Herman Yamehogo. Tout naturellement, le chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré, est poursuivi pour 11 chefs d'accusation, dont celui de crime contre l'humanité qui peut l'envoyer à la CPI. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Signalons aussi que le domicile à Ouagadougou de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et ancien chef de la rébellion ivoirienne soutenue par le Burkina Faso, a été perquisitionné. C'est dans le cadre de l'enquête sur le putsch raté du 17 septembre au Burkina, selon le directeur de la justice militaire, le colonel Sita Sangaré.
Et justement, en parlant de la Côte d'Ivoire, Morgane, c'est demain le dernier jour de retrait des cartes électorales. Mais d'après les médias, il y aurait eu peu d'engouement de la part des citoyens. Nathalie Barge a joint à Abidjan la porte-parole de la CENI, Victoire Ali, qui dit ne pas avoir des statistiques.
Nous avons lancé les appels. C'est vrai que les premiers jours, il n'y a pas eu d'affluence, mais là, ça va, les électeurs sont en train de retirer leurs cartes.
Combien d'électeurs ont retiré leurs cartes?
Nous n'avons pas les statistiques à ces jours. La distribution des cartes s'est faite dans tous les lieux de vote. Donc les chiffres remontent. Nous n'avons pas encore les chiffres globaux.
Quand est-ce qu'a débuté cette opération de retrait des cartes?
Elle devait débuter le 7 et on a pris deux jours de retard parce que toutes les cartes n'ont pas été mises à disposition le même jour dans toutes les localités parce qu'il fallait convoyer. Certaines localités sont plus éloignées que d'autres. Nous avons commencé à mettre les cartes à disposition à l'extérieur du pays dans nos commissions électorales là-bas et nous avons déposé dans tous les lieux de vote sur le territoire national. toutes les cartes sont à disposition. Donc nous avons lancé les appels pour que les électeurs se rendent dans leur lieu de vote pour retirer leurs cartes.
C'était donc la porte-parole de la CENI en Côte d'Ivoire, Victoire Ali, joint par Nathalie Barge.
Attentat au Nigeria, trois femmes kamikazes se sont fait exploser à Maïdougouri. On fait le point avec Michel Joseph.
Les explosions de ce matin à l'aube ont eu lieu après deux attentats suicides qui ont fait une trentaine de morts dans une mosquée de Maïdougouri, capitale de l'État de Borno. Selon les responsables de services de secours, les explosions à la mosquée ont été programmées, de telle sorte que la seconde a tué beaucoup de personnes volant au secours des victimes de la première. Des dizaines de personnes ont été également blessées. On soupçonne Boko Haram d'être responsable de cette vague d'attentats suicides dans le nord-est du Nigeria. Les militants islamistes nigérians ont lancé plusieurs attaques transfrontalières dans la région. Et mercredi, le président Barack Obama a annoncé l'envoi de militaires américains au Cameroun pour des missions de reconnaissance aérienne en appui aux efforts conjoints du Nigeria, du Tchad, du Cameroun, du Bénin et du Niger pour éradiquer la menace Boko Haram. Selon Amnesty International, ce groupe a tué au moins 1600 civils depuis le début de juin et plus de 3500 en 2015.
Michel Joseph, République centrafricaine à présent, retour au calme dans le 3e arrondissement après une nuit de violence. Au moins 3 personnes auraient trouvé la mort et près d'une dizaine d'autres blessés. Aujourd'hui, la MINUSCA a repris le contrôle de la situation. Le point avec notre correspondant Freeman Sipila.
Aux environs de 17h locales, des tirs à l'arme lourde et légère ont éclaté dans les quartiers Castor et Yakité et ont duré plusieurs heures. Selon des témoins, il s'agit en fait d'un accrochage entre hommes armés rivaux, notamment anti-balakaï musulmans armés de PK5, accrochage qui serait déclenché suite à l'attaque à la Kalachnikov d'un groupe de jeunes musulmans qui jouaient au football sur un terrain non loin du pont Yakité par des inconnus. Ce vendredi, les deux groupes armés se rejettent la responsabilité des hostilités. Almiri Matar, alias Force, responsable du groupe d'autodéfense de PK5, a affirmé qu'ils n'ont fait que répondre à une attaque des miliciens anti-balaka. Accusation rejetée par le sergent-chef Junior Bayo comme zone des anti-balaka du secteur, parlant d'une simple machination. La force de la MINUSCA qui a pu départager sous la pluie battante de ce jeudi soir, les belligérants a indiqué aujourd'hui avoir repris la situation en main et que le calme est revenu dans ces quartiers. Dénonçant cette nouvelle violence, le porte-parole du gouvernement, Dominique Saïd Pagindi, a précisé que des mesures judiciaires internationales sont en cours afin de rattraper les auteurs de la crise que traverse le pays. Le bilan de cette nouvelle tension n'est pas encore disponible. À en croire certaines sources, 3 personnes auraient trouvé la mort et près d'une dizaine d'autres blessés, en plus de déplacements massifs des habitants. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Crise au Mali, l'ex-rébellion du Nord et ses rivaux groupes, des groupes armés pro-gouvernementaux ont annoncé jeudi soir avoir scellé la paix après plusieurs jours de pourparlers. C'est ce qu'a annoncé l'AFP.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, nouveau drame à Calais en France. Un migrant est mort hier dans l'Eurotunnel en essayant de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Les détails sur place avec Nicolas Pinon.
Oui, le drame s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi. Il était 2h15 du matin sur le site d'Eurotunnel. Un train de marchandises arrivant d'Angleterre est arrivé sur le site. C'est à ce moment-là que le migrant a essayé de monter sur ce train et malheureusement pour lui, il a été happé par le train. Les secours sont formels, impossible de savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, tant le corps a été déchiqueté par ce train. Malheureusement, il s'agit de la 16e personne qui est décédée en tentant de traverser le tunnel sous la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Déjà mercredi soir, une femme avait été écrasée par une voiture toujours sur ce même site, cette fois sur l'autoroute. Et on rappelle qu'à côté de ce site de Eurotunnel, il y a ce fameux site appelé la jungle, dans lequel s'entassent 4 à 5 000 personnes qui espèrent toutes pouvoir traverser et se rendre en Angleterre. Depuis Calais en France, Nicolas Pineau, VOA Afrique.
Des protestataires palestiniens ont incendié des parties du tombeau de Joseph en Cisjordanie. Et c'est ce qu'ont annoncé les officiels israéliens en ce vendredi de la révolution appelée par les groupes palestiniens. Idrissa Seydoudia.
Une centaine de Palestiniens ont usé de cocktails Molotov pour brûler ce lieu sacré juif à Naplouse. Ils ont été dispersés par les forces de sécurité palestiniennes qui ont ensuite éteint l'incendie. l'armée israélienne prendra toutes les mesures nécessaires pour traduire en justice les auteurs de cet acte méprisable et restaurer le site et faire en sorte que la liberté de culte revienne au tombeau de Joseph, a dit le porte-parole Peter Lerner. Un tel acte est une insulte à notre culture, notre religion et nos valeurs morales, a déclaré de son côté le président palestinien Mahmoud Abbas en promettant de former immédiatement une commission d'enquête. Aujourd'hui, et selon l'AFP, citant les autorités de la bande de Gaza, un Palestinien a été tué par des tirs israéliens lors de heurts près de la frontière avec Israël. Depuis deux semaines, une série d'attaques perpétrées par les Palestiniens, essentiellement des agressions à l'arme blanche, ont coûté la vie à 7 Israéliens et au moins 31 Palestiniens ont été tués par l'armée et la police israélienne, certains pendant des manifestations et d'autres pendant ces agressions.
En Syrie, le régime de Bachar al-Assad a lancé aujourd'hui une vaste offensive près d'Alep pour reprendre une autoroute reliant les grandes villes du pays.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Dili Dico.
En Tunisie, le capital investisseur Mediterranea a acquis une participation de 23% dans la société meunière tunisienne SMT, dont les produits phares sont les pâtes et le couscous randa. Le montant de cette transaction n'a pas été divulgué. La société meunière tunisienne, avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 75 millions d'euros, est un complexe agro-industriel rassemblant diverses filiales de production et de distribution alimentaire, dont fait partie Randa, mais aussi la société tuniso-malienne de commerce et de distribution, basée au Mali. Le groupe français Sucre et Denrées, Sucden, a été supprimé de la liste des opérateurs autorisés à exporter du cacao ivoirien. Le négociant français de produits agricoles ne fait plus partie des 113 sociétés et coopératives ayant reçu le feu vert du Conseil Café Cacao, CCC, pour exporter la récolte de cacao pour la campagne ayant débuté le 1er octobre. À l'origine de cette éjection, la soixantaine de procédures d'arbitrage que Sucden a entreprises contre Africa Sourcing pour sa mauvaise qualité de cacao et aussi contre le CCC. Africa Sourcing, très favorisé par le CCC en termes de quotas d'exportation, est dirigé par Loïc Folorou, fils de la première dame Dominique Ouattara.
Voilà pour la Minute Éco, merci et Dili.
C'est vendredi, le moment de faire les sports. Morgane, Tim, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Oui. Le football avec ce coup d'envoi demain au Chili de la Coupe du Monde des moins de 17 ans.
Eh oui, Eric, on aura droit à deux matchs demain. Nigeria-États-Unis dans le groupe A et Royaume-Uni-Guinée dans le groupe B. Dimanche, le Mali défendra les couleurs africaines face à la Belgique dans le groupe D, alors que l'Afrique du Sud en découdra avec le Costa Rica lundi. Ce sera dans le groupe E.
Et Tim, le vocabulaire qui domine la Fédération internationale de football, le mot suspension.
Et oui, la FIFA qui vient de suspendre cette fois-ci la Fédération de football du Koweït, une mesure qui intervient après l'expiration d'un ultimatum demandant au gouvernement koweïtien des changements à la loi des sports, précise un communiqué de la Fédération internationale. La FIFA exige que la Fédération koweïtienne et ses clubs puissent mener leurs activités en toute indépendance. Conséquence de cette suspension, le Koweït, ses équipes et clubs sont privés de toute participation aux activités, aux programmes de la FIFA ou de la Confédération asiatique de football. Et ce qui fait planer un nuage sur le prochain match de l'équipe du Koweït en qualification au Mondial 2018, prévu le 17 novembre au Myanmar.
Tim, même le football thaïlandais, non plus au football, n'a pas été épargné par des sanctions.
Et non, Eric, la FIFA a balayé aujourd'hui l'ensemble des membres du comité exécutif de la Fédération thaïlandaise, et ce, 4 jours après avoir suspendu son président Worawi Makoudi, qui fait l'objet d'une enquête pour violation de l'éthique. Un comité de normalisation a été mis en place pour superviser l'élection d'un nouveau comité exécutif le 16 février au plus tard.
Merci Tim. Première action de Issa Hayatou à la tête de cette fédération à l'intérim.
Eh oui.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Eric Manirakiza en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Eric, votre pays, le Burundi.
Oui, Morgane, le parti présidentiel accuse des pays colonisateurs d'être derrière la violence qui s'écoule au pays depuis plus de 4 mois. Et dans le communiqué lu à la radio-télévision nationale, le porte-parole du CNDD-FDD, Gelas Daniel Ndavirabe, a dit que ces pays coloniaux achètent des armes aux criminels, tuant de paisibles innocents dans les quartiers contestataires. Mais d'après le président de l'Alliance des démocrates pour le changement, Léonce Ngendakumana, ces allégations sont un suicide pour le pays, comme le dit Christophe Nkurunziza à Bujumbura.
Le porte-parole du parti qui est au pouvoir depuis 2005, Gelas Daniel Ndavirabe, a annoncé à la radio-télévision nationale que les pays colonisateurs achètent des armes et les distribuent à ceux qu'ils qualifient de criminels. Ces derniers seraient ceux qui sèment le chaos dans ce petit pays de 27 834 km² depuis le mois d'avril 2015. Le mois où le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature et que les manifestations contre son troisième mandat ont débuté dans bon nombre de quartiers de la capitale, Gelas Ndavirabe.
Des assassinats sélectifs sont observés, sans aucun doute que ces assassins terroristes sont matériellement et financièrement appuyés par certains pays néocolonialistes en soutenant les tueurs. Ils sont en train de réaffirmer aux yeux des démocrates burundais que l'usage de l'élément ethnique est un instrument qui leur permettra de diviser, de détruire le pays et mettre sous les rênes du pouvoir qui ils veulent pour leurs intérêts.
Pour Gelas Ndavirabe, ces pays colonisateurs continuent de semer le chaos qu'ils ont installé depuis les années 60 avant l'indépendance du Burundi.
Et ces ennemis de la paix sont soutenus par des pays colonisateurs qui ne souhaitent que le Burundi soit uni, ce qui signifie qu'ils veulent ramener le Burundi sous la colonisation.
Cette femme qui travaille à Bujumbura indique que les propos de Gelas Ndavirabe devaient être normalement prononcés par des responsables diplomatiques du Burundi.
Je ne suis ni pour ni contre les déclarations qu'il a faites. Mais est-ce qu'il a fait les investigations qu'il faut? Il a les preuves pour dire ça? Est-ce qu'il a compté le pour et le contre? Est-ce qu'il a pensé aux conséquences que ça pourrait avoir sur notre économie si maigre, un pays comme le Burundi qui survit de l'étranger?
Pour ce politicien qui s'insurge contre ceux qui violent les accords d'Arusha et la Constitution, les déclarations du parti présidentiel n'augurent rien de bon pour la paix au Burundi, même dans la région des Grands Lacs. Le président de l'ADC Ikiviri, Léonce Ngendakumana.
Je dois dire que c'est un suicide pour le Burundi. Il ne faut pas parler du porte-parole du parti CNDD-FDD, il faut parler plutôt de l'ex-président du Burundi, Pierre Nkurunziza. C'est lui qui est à la tête de tout cela, car après avoir détruit les piliers de la paix et de la réconciliation au Burundi, ça c'est l'accord d'Arusha et la Constitution, après avoir détruit les piliers de la démocratie, les partis politiques, la société civile, les médias, maintenant en s'attaquant violemment à la communauté internationale, particulièrement aux colonisateurs, l'ex-président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, vient de consacrer l'isolement du Burundi.
Depuis le début de la crise, plusieurs pays donateurs européens ont gelé leur aide avec l'annonce du troisième mandat de Pierre Nkurunziza, critiqué par la communauté internationale. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Campagne électorale en Côte d'Ivoire, selon la presse nationale, il y a peu d'engouement jusqu'ici de la part des électeurs pour aller retirer leur carte électorale. Sachant que demain est le dernier jour pour ce faire. Certains médias nationaux vont jusqu'à parler de boycott du retrait des cartes. Pour une analyse, Nathalie Barge a joint à Abidjan Fernand-Julien Gauze, le président du réseau des organisations de la société civile en Côte d'Ivoire.
Le premier facteur, c'est ce sentiment de « à quoi bon ?». On a une élection où il y a de toute évidence un super favori qui est le candidat au pouvoir, le président sortant, et il y a les autres. Donc les gens se disent que ça ne sert à rien de perdre son temps à aller faire une élection qui est gagnée d'avance. Et je pense que même dans la communication qui est faite au niveau du parti au pouvoir, même dans la bouche du porte-parole du gouvernement, on a déjà entendu ces phrases-là. Quand les populations, la population, le lecteur ou les citoyens lambda entendent dans la bouche du porte-parole du gouvernement, c'est une élection que nous avons déjà gagnée. Ils considèrent que c'est un, j'allais dire, un décret qui est ainsi rendu public. Donc, il y a un ensemble d'éléments, notamment les mots d'ordre de boycott qui sont donnés par certains partis d'opposition tels que le Front populaire ivoirien. Troisièmement, on peut prendre appui sur le fait qu'il y a des mots d'ordre contradictoires qui sont donnés. Par exemple, l'un des candidats parmi les plus connus, le professeur Mamadou Koulibaly, eh bien, a dit qu'il engagerait une action de campagne, une campagne en faveur du boycott des élections. Certains candidats se retirent, tels que le président, le ministre des Affaires étrangères, Siamara. Tout ça envoie des signaux négatifs, dissuasifs, j'allais dire des touches froides dans le dos des électeurs.
Mais vous, en tant que défenseur de la démocratie, justement, est-ce que vous ne conseillez pas aux électeurs d'aller voter? Parce que, bon, la démocratie commence également par les urnes. Est-ce que c'est pas le meilleur moyen de tenter sa chance?
Oui, certainement. Il y a une sensibilisation à faire de ce point de vue. Mais vous savez, la société civile, quels que soient les acteurs qui interviennent, ils peuvent faire cette sensibilisation, tenter de la faire. Mais si, comme je dis, des messages différents sont donnés par la classe politique dans son ensemble, ou du moins dans ses composantes très importantes, c'est comme si vous voulez faire des coups d'épée dans l'eau. Effectivement, on serait tenté de demander aux Ivoiriens de prendre leur courage à deux mains pour donner une chance à la démocratie et donner une chance à l'expression des suffrages individuels qui, combinés, mis tout à bout, peuvent changer la donne.
On a l'impression d'assister de plus en plus en Afrique à des leaders politiques qui, au lieu de mobiliser leurs partisans, les démobilisent en quelque sorte. Mais quel regard portez-vous sur cette attitude de penser que c'est toujours perdu d'avance?
On pourrait dire que en Côte d'Ivoire, comme j'ai dit, on n'a pas une tradition d'abord de participation populaire. Deuxièmement, le traumatisme des élections de 2010 reste encore dans le fond des crânes, dans le fond des têtes. Mmh. Les gens ont encore ce traumatisme-là. Et puis, troisièmement, il y a la peur qui sévit en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se le cacher. Chacun de nous vit dans l'anxiété quelque part, d'une façon ou d'une autre. Il y a une certaine démobilisation due au fait que les gens se disent que l'état de droit n'est pas encore effectif et donc ça ne sert à rien qu'on aille s'exposer la poitrine pour dire des choses auxquelles personne ne croit. Mais c'est un processus.
Voilà, c'était Ferdinand Julien Gauze, le président du réseau des organisations de la société civile de Côte d'Ivoire.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
La fièvre hémorragique Ebola refait surface en Guinée, à l'heure où le pays a toute son attention focalisée sur l'après-premier tour de la présidentielle de dimanche dernier. De nouveaux cas d'identification par le virus ont été détectés par l'Organisation mondiale de la santé. Le retour d'Ebola en Guinée déçoit-il les acteurs engagés dans la lutte contre la maladie? C'est ce que Jacques Aristide a cherché à savoir en posant cette question au directeur Pierre Rollin, spécialiste des maladies infectieuses au Centre pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, les CDC.
Bon, c'est toujours décevant de voir que l'épidémie n'est pas terminée, mais très souvent on peut s'attendre à ces petits accidents en fin de parcours. C'est toujours difficile de terminer une épidémie, surtout quand elle a une répartition géographique aussi importante.
Faut-il craindre une nouvelle propagation de la maladie, surtout par rapport aux autres pays concernés ?
Non, le Liberia est à l'heure actuelle indemne, la Sierra Leone est en bonne voie, ils ont déjà dépassé un certain nombre de jours et normalement, si tout se passe bien, l'épidémie devrait être déclarée et terminée par l'Organisation mondiale de la santé le 8 ou le 9 novembre. Il n'y a pas vraiment de risque d'une grosse épidémie qui repart.
La Guinée n'avait pas connu de nouveaux cas depuis deux semaines, ce qui avait suscité un espoir très fort de voir le pays débarrassé d'Ebola. Y a-t-il eu un certain relâchement de la part des autorités ?
Non, je ne peux pas dire que ça soit le cas. Je crois qu'il y a une fatigue générale de la population qui en a assez aussi. Et quelquefois ne respectent pas les recommandations.
Nous avons appris cette semaine que des travaux menés en Sierra Leone ont montré que le virus peut rester présent dans le sperme 9 mois après l'infection. Cela veut dire qu'il faut donc rester très vigilant pour le moment.
Donc il faut rester très vigilant, mais cette étude a montré qu'on peut détecter du virus, mais on n'a pas encore les résultats pour savoir si c'est du virus vivant. Donc il faut que les sujets hommes qui ont survécu prennent des précautions et évitent ça. Évitent de transmettre la maladie pour certainement plusieurs mois. Mais il faut quand même reconnaître que cette transmission sexuelle, elle existe, elle est possible, mais elle est très rare parce qu'on a des milliers d'hommes qui ont survécu dans cette épidémie. Et on a vraiment très peu de cas, ça se compte avec les doigts d'une main quasiment.
Bref, l'Ebola continue à sévir en Afrique de l'Ouest. Pensez-vous que cette région va finalement pouvoir vraiment se débarrasser de cette maladie ?
Oh oui, ça c'est une question de semaines. Le problème c'est que chaque fois qu'il y a un cas qui passe à travers le filtre, ça repousse de 15 jours et de 15 jours et de 3 semaines et ça continue comme ça. Mais encore une fois, le nombre de cas est vraiment très très limité.
Le docteur Pierre Rollin, des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, était joint à Atlanta.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Suite de notre série sur les migrants en Europe, des milliers d'Africains secourus au large des côtes libyennes sont acheminés vers la Sicile. Une fois débarqués, un nouveau long périple les attend. C'est le reportage de l'envoyé spécial de VOA Afrique, Nicolas Pino, en Italie.
Le regard un peu perdu des enfants érythréens et leurs parents descendent lentement du navire Enterprise. Ce bateau de la marine britannique les a secourus ainsi que 650 autres migrants en Méditerranée. Comme eux, des milliers de migrants débarquent en Sicile depuis plusieurs mois. À leur arrivée, ils sont temporairement hébergés dans des centres fermés de l'île. C'est dans ces premiers jours que va se déterminer la suite de leur aventure européenne. S'ils acceptent de faire enregistrer leurs empreintes digitales en Italie, ils entrent dans le règlement Dublin. Ce texte, adopté en 2013, prévoit qu'un réfugié doit déposer une demande d'asile dans le premier pays dans lequel il est arrivé et y rester jusqu'à son examen. Beaucoup ne le savent pas encore, mais cette décision, une fois arrivée en France, en Allemagne ou en Suède, peut les contraindre à devoir retourner en Italie s'ils se font arrêter. Après la Sicile, les migrants sont envoyés vers Rome ou Milan. À leur descente de bus, c'est chacun pour soi. Officieusement, les autorités italiennes se débarrassent de ces personnes qui n'ont pas pour ambition de demander l'asile en Italie. Les transporter dans le nord du pays, c'est la garantie de les voir quitter plus tôt l'Italie. Alassane Saidi connaît bien le problème. Cet ancien journaliste sénégalais est aujourd'hui médiateur culturel. Il intervient régulièrement auprès des migrants sur Milan.
Pas seulement à Milan, dans beaucoup d'autres régions, même en Italie. Ils sont mis dans des bus, on les amène jusqu'à destination. Il n'y a pas d'accueil, il n'y a personne qui est là pour quand même leur dire voilà ce qu'on doit faire de vous. Il n'y a rien, on les débarque et les bus retournent. Donc ils sont laissés à leur propre sort. Mais c'est ce qui intervient généralement ici, ce sont les associations, c'est la Caritas, l'Église quand même qui franchement a beaucoup contribué quand même à la prise en charge de ces gens.
Derrière la gare centrale de Milan, un centre de jour accueille les migrants avant qu'ils ne soient acheminés vers d'autres structures pour passer la nuit. Fabio Passiani de la fondation Progetto Arca qui gère ce centre.
C'est un transit ici. Les migrants restent en moyenne 4 à 5 jours, puis ils s'en vont. Il y en a même qui partent 24 heures après leur arrivée.
Plus de 137 000 personnes sont arrivées en Italie par bateau depuis début 2015. Nicolas Pino, Milan, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition, à la mise en onde Michel Joseph, présentation Morgane Guerriec et Eric Manirakiza.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.
N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.